seul magique miroir, on va dire le 1, puisque il y en a 4 cette année, mais j'y reviendrai. Je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous, bien sûr, une chaleureuse bienvenue, mais aussi vous dire tout le plaisir que nous avons de vous retrouver tous pour ce 16e festival des Imaginales, magnifiquement illustré d'ailleurs par cette affiche de Julien Delval qui est ici et qui aura l'occasion de s'exprimer, de parler de son affiche en tous les cas. Nous la trouverons merveilleuse, extraordinaire. On est ravis de lui avoir confié le dessin de cette affiche. Alors cette année, le thème des Imaginales, c'est la destination. Et cette destination, elle renvoie au voyage, et notamment à la science-fiction avec le space opéra. Elle renvoie également aux destinées, aux quêtes initiatiques qui peuplent les univers de la fantasy, et puis elle renvoie à la nation, si profondément questionnée par notre actualité. Le pays invité, la Suisse, on est parlé très loin cette année, dont la littérature imaginaire, et notamment de science-fiction, est si riche et si originale, et on a ici deux auteurs que Stéphanie vous présentera dans quelques instants. Et puis, aujourd'hui, disons-le, et sans fausse modestie, les Imaginales sont devenus le premier festival de fantasy en France et l'un des plus importants événements de ce type en Europe. Alors, c'est un moment qui est très attendu des professionnels, bien sûr, libraires, éditeurs, traducteurs, illustrateurs, auteurs, bien sûr, comme en témoigne d'ailleurs la reconnaissance nationale des prix obtenus aux Imaginales. Mais les Imaginales, c'est aussi un moment très, très attendu du public, bien sûr, un public qui est croissant maintenant depuis des années. Je rappelle que l'an dernier, il y a eu près de 30 000 visiteurs, 6 000 personnes ont participé au café littéraire et les chiffres d'affaires de nos libraires, on en est content pour eux, ont explosé en quelques années. Alors cette année, les éditeurs et les exposants continuent à venir en masse. Cette année, nous avons 58 stands ici et l'implantation dans le parc du Pour ayant été plébiscitée depuis l'an dernier. Le festival, je rappelle, est ouvert bien sûr à tous les publics, mais on a fait un effort particulier en direction des jeunes, notamment cette mobilisation fantastique des lycéens, des collégiens, des écoliers à travers les prix. Des prix qui les mobilisent autant et qui ont aujourd'hui un succès énorme. Alors ce prix jeune public a permis a pu se développer grâce notamment l'un d'eux au magazine Jeunesse Phosphore et Jeboukine. On les remercie, Thierry Phosphore et Jeboukine, qui ont réalisé un numéro spécial autour du thème du Space Opera cette année à l'occasion des Imaginales. Et puis, les Imaginales, c'est aussi un riche panel de nouveautés, une nouvelle édition de l'anthologie des Imaginales qui est éditée par Nemos et consacrée cette année pour la première fois à la même thématique que le festival, c'est-à-dire Destination, sous la direction de Stéphanie Nicot. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons maintenant 4 magiques d'erreurs. Je rappelle que lorsque nous avons démarré il y a 15 ans, tout était concentré dans les bâtiments de l'espace courant. Aujourd'hui, nous sommes sur 4 magiques miroirs, et puis 3 sont consacrés, bien sûr, au débat, aux tables rondes, aux cafés littéraires, etc. Un 4e est dédié à l'histoire. Quant à l'espace courant, il est dédié à notre pôle scientifique. Les partenariats, je voudrais quand même, je ne peux pas parler ici, bien sûr, de la 16e édition des Imaginales sans évoquer la 5e édition des Imaginales maçonniques et ésotériques qui se déroule tout près d'ici à quelques 100 mètres, 150 mètres au temple à côté. Et puis à cette occasion, je voudrais vous parler, en tous les cas, vous faire remarquer, vous inciter d'aller visiter l'exposition qu'on a vernis il y a 2-3 jours au musée départemental d'art ancien et d'art contemporain, une exposition dédiée à la présentation de la forme. ce festival, vous aurez l'embarras du choix sur différents sites. Embarras du choix aussi pour ce qui est des spectacles, des reconstitutions historiques, et puis des films que vous pourrez découvrir. Et enfin, on terminera dimanche, ce sera la cinquième rencontre nationale de body painting avec plus de 70 artistes présents. Enfin, après le succès de l'année dernière, les Imaginales offrent cette année encore au festival et aux visiteurs des concerts et des spectacles tous les soirs à partir de 20h30. Alors, je ne vais pas aller plus loin dans le détail. Vous avez tous le programme, vous savez tous lire. Je vais tout de suite passer la parole à Stéphanie Nico qui va vous présenter les auteurs qui sont ici autour de nous, dont votre coup de cœur, Aurélie Wellenstein, qui est de notre côté, qu'on est très heureux d'être.
Merci beaucoup, Michel. C'est toujours un moment non plus tendu, parce que maintenant, quand même, déjà, ça fait plus de 15 ans qu'on est lancé sur la préparation de l'organisation des Imaginales. Ce sont des retrouvailles, dorénavant. Des retrouvailles, et chaque année, on est à la fois fidèle à la tradition et on ouvre sur de nouvelles perspectives. C'est tout l'esprit des Imaginales quant à la convivialité que chacun y trouve. Le contact facile et direct entre la ville, la population, les écrivains, toute l'équipe municipale mobilisée, j'en profite pour remercier. Eh bien, c'est ça, cette magie des Imaginales, au-delà des lieux, ces magiques mirrors, il y en a eu un, et puis maintenant, il y en a quatre. Trois pour les débats, plus l'autre qui est notre pôle historique, qui est appelé à se développer, à s'enrichir, le pôle science, vous venez, M. le maire, d'en parler à l'instant, et puis aussi le pôle bébé qu'on retrouve aussi à l'espace court, un lieu de dédicace qui vous permettra cette année et encore plus dans les années à venir que la BD puisse prendre toute sa place à Épinal, aux Imaginales, avec l'arrivée pour renforcer l'équipe traditionnelle qui est sous la bulle du livre, l'arrivée d'un troisième libraire, libraire spinalien, que je salue et félicite ici. Ce moment est toujours un moment émouvant parce que ben, d'abord vous êtes là, au-delà de tous les scolaires qui rencontrent les écrivains, qui vont tout à l'heure voir remettre les prix. Toute cette journée, collégiens et lycéens, on a évidemment l'arrivée depuis hier soir de nos invités américains, certains et anglo-saxons, suisses, etc. On a par exemple, je le salue, notre ami Christopher Priest, qui est à la fois un des très grands de la science-fiction, parfois aussi un peu du fantastique, britannique, une des très grandes peintures pour qui j'ai une grande amitié, une grande admiration littéraire depuis très longtemps, depuis que j'ai découvert ces littératures. Ce sont des parcours, des rencontres, et Christopher n'a pas été un des premiers arrivés aux Imaginales, mais il y est aujourd'hui un des fidèles. On le compte parmi nous quasi tous les ans, et c'est un véritable bonheur, et en plus, quand on voit les ventes de livres, on voit que Christopher s'est acquis par la qualité et par le talent de ses œuvres un véritable public. On lui donnera la parole tout au long de ces journées, mais je voulais aussi commencer aujourd'hui par Sophia Samatha. Sophia fait partie de la jeune génération américaine de l'imaginaire, de la fantasy, a su nous séduire avec un roman traduit seulement en France et quelques nouvelles, c'est-à-dire qu'elle nous arrive avec une seule œuvre et pourtant, cette œuvre, Un étranger de Londres, nous a suffisamment marqué pour qu'on ait envie de la découvrir et de la faire venir. On s'est dit, on ne va pas attendre les deux, trois romans de ce niveau, on va tout de suite la faire venir en France, on va tout de suite vous la faire découvrir. Ce roman a été nominé l'an dernier au prix Imaginal. Ce roman a eu les deux plus grands prix de fantasy britannique et américain, ce qui pour un premier roman, un doublé comme ça n'arrive quasi jamais. C'est un roman en plus qui parle de destin, celui du personnage principal en particulier, qui parle des nations, qui parle aussi du voyage, qui parle de l'exil, et qui parle évidemment avec beaucoup d'amour des livres. On y parle de d'autres choses, mais rien qu'avec ça, vous voyez à quel point Sophia Samatha illustre le thème destination. Alors, brièvement, parce qu'on a peu de temps, c'est à vous que je vais donner la parole en premier, Sophia. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi dans ce roman, Le Transgenre de Londres, de brasser tous ces thèmes qui sont celui du voyage, celui de l'attachement au pays natal, celui de l'exil, mais aussi celui de la rencontre des autres.
Merci.
to answer the question about why I chose the subjects that I chose for my novel, I wrote the novel A Stranger in Alondria when I was living in South Sudan.
Donc là, sur la question de pourquoi est-ce que j'ai choisi le sujet, ce sujet pour mon livre, à l'époque je vivais dans le Soudan du Sud.
I was living there teaching English, and I myself am someone with a mixed background. So my mother is American, and my father was Somali.
Donc j'enseigne l'anglais, et moi-même, je viens de j'ai des origines un peu mixtes. Mon père est américain, et ma mère est soudanaise.
So, I was... Yes, thank you. So I found myself in a very mixed situation, teaching a foreign language, living in a foreign country, a country that was at war and that had and a war that had a lot to do with culture and religion, a cultural and religious conflict.
Moi-même aussi, j'étais un petit peu partagé entre le fait d'enseigner un langage qui était étranger pour moi dans un pays qui m'était étranger et un pays qui plus est, qui était en guerre, et une guerre qui se faisait pour des raisons à la fois culturelles et religieuses.
And so I wrote this novel about language and about exile and about conflict and about the attempt to overcome these cultural boundaries. Because it really was not my fantasy, but my reality.
Et donc j'ai écrit cette nouvelle qui traite à la fois du langage, de l'exil et du conflit, tout simplement pour essayer d'outrepasser, de surpasser ces limites culturelles, parce que pour moi c'était un contexte bien réel et pas un contexte de fantaisie.
Merci, Sophia, pour nous avoir donné déjà envie de découvrir ce livre que vous trouverez à l'étranger en Hollande. Autre auteur américain, Jim Hines, nous arrive avec deux romans publiés, cette fois-ci aux éditions L'Atalant. Le livre de Sophia Samatar est un petit éditeur partenaire du Festival des éditions d'Instant, que je tiens à saluer à la fois pour avoir repéré le bouquin en premier avant les grandes naissances et pour avoir fait une aussi belle traduction de l'anglais. Ça, c'est aussi important pour valoriser le roman. Jim Hines, vous écrivez, alors là, de la fantaisie avec parfois de l'humour, de la magie. Les deux premiers romans qui sont parus, Le Musée Romancien et sa suite, à La Talente, nous parlent de livres et de magie. Pourquoi vos héros, d'habitude, on voit des combattants, on voit des mercenaires, on voit des rois, on voit des jeunes qui vont se révéler comme des futurs héros sauvant leur peuple ou leur pays. Et vous, Jim Hines, vos héros sont des bibliothécaires. C'est quand même si fréquent, peut-être, de choisir comme héros et acteur de la magie un bibliothécaire, à moins que ce soit la magie des livres dont vous parliez.
I would say both. I chose the librarians and the books as heroes, partly because, yes, books are magic. They're powerful. They change lives, which I suspect most of us here already know that. But also, you know, librarians, booksellers, and writers, I believe, are legitimately heroes in the world, which sounds kind of self-serving, I know. But, you know, librarians especially, they're preserving knowledge, preserving books, even when, you know, politics turns against them, when wars
sauver ses livres et ce savoir. Donc je pense que ce sont des héros. Il y a une citation de Neil Gaiman que j'aime beaucoup. Il dit « Oui, c'est vrai que Google peut vous donner un million de réponses. La bibliothécaire va vous donner la bonne. » Voilà, j'aime les bibliothèques, j'aime les livres. Pour moi, ils sont très importants. Ils ont été extrêmement puissants dans le rôle de façonnage qu'ils ont eu de mon identité, de ce que je suis. Et c'est pour ça que j'ai fait.
Merci, Dimaït. Catherine Valente, vous avez décroché plusieurs prix, mais en particulier, vous avez décroché le prix Imaginal pour votre premier roman traduit en français. Le second vient de sortir, là encore, petit coup de chapeau, c'est un jeune éditeur, une jeune maison qui vous a repéré et vous a traduit en français avant les grandes maisons d'édition habituelles. Vous adressez à la jeunesse, même si vos romans sont des romans extrêmement ambitieux, qui sont lisibles et qui sont lus par des adultes. Pourquoi ce choix en littérature de fantasy de vous adresser à la jeunesse, mais néanmoins avec des titres, vous le verrez, rallonges, qui surprennent, qui renvoient peut-être aussi à la tradition des contes et qui surprennent en littérature jeunesse. Alors, voilà, pourquoi ce choix, à la fois de ces titres incroyables qui ne tiennent pas sur une seule ligne, ni même sur deux, et pourquoi aussi avez-vous fait le choix d'une littérature jeunesse de fantasy ambitieuse, Catherine Valente?
Children and adults. I wrote for adults for a number of years before I wrote a book for younger readers, so I still choose to write for both adults and children. I haven't gone over to one side or the other. I love both of them. They take different skill sets and different focuses, but they're both huge passions of mine. As far as the long titles, I am sorry. Je suis désolé. It was a joke that only I found funny. I didn't think anyone would actually accept that title as a publisher, but they did, and now I'm stuck with it. I was making a joke about the elaborate titles that were often given to children's literature in the early 20th century. Ha, ha, ha. What a knee slapper. It turned out, by no real fault of my own, that parents really liked these long titles because they knew exactly what was going to be in the book. I've had many, many parents tell me that instead of having the one-word mysterious titles, being able to know exactly what the book was about was wonderful, wonderful for them looking for books for their kids. So I suppose it worked out. My next children's book is called The Glass Town Game, much shorter. I think that one of the most fun parts of being a writer is that you can make jokes that only you laugh at. And sometimes those jokes get really, really out of hand, and they land you in a beautiful place in France in an incredible tent. So keep making those jokes that are jokes for one is my only real advice.
Bonjour à tous. J'écris effectivement pour la jeunesse et aussi pour le public adulte depuis un certain nombre d'années. J'avais d'ailleurs commencé par écrire des livres pour adultes. Je n'ai pas vraiment envie de choisir de me consacrer à l'un ou à l'autre parce que vraiment je porte ces deux disciplines dans mon cœur. Chacune fait appel à des outils, à des compétences très différentes et je suis vraiment, les deux sont des passions. Alors, pour ce qui est des titres à rallonge, je suis vraiment désolée. Ça a commencé comme une blague qui ne faisait rire que moi. Je me suis amusée à donner ces titres très très longs en disant que jamais personne ne les accepterait. Jamais personne, je veux dire, aucun éditeur n'accepterait ça. Mais finalement, ça a été le cas. Et donc maintenant, je suis bien embêtée, je suis coincée avec ces titres qui font de ligne. J'ai fait cette blague des titres à rallonge en référence aux titres très très longs qu'on avait tendance à donner aux ouvrages à destination de la jeunesse au début du XXe siècle. Et ha 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 ha, génial, on se tape la cuisse, et bien voilà, les titres ont été retenus. Mais je rencontre beaucoup de parents qui me disent qu'eux sont très très contents de ces titres longs. Parce qu'au moins,
tout maintenant, pré-imaginale quand même, jeunesse, Maria, et c'est pas uniquement pour le titre, vous verrez. De Walton, bonjour et merci d'être parmi nous. Alors, vous êtes, on ne sait plus, avec le Brexit, britannique, galloise, très bien. Très bien. De Walton habite à Montréal et c'est de là qu'elle nous vient. En tout cas, De Walton est une grande auteure et deux, une grande auteure de science-fiction. Et pour aller vite, pour présenter entre autres la trilogie du cercle de Farzin, qui m'a tout à fait enthousiasmé, les autres aussi, c'est Horacien. En deux mots, nous sommes en 1941, ceux qui ont un peu de connaissance historique ou un certain âge se rappellent, Rudolf Hess, dauphin de Hitler, prend un Messerschmitt et atterrit au Royaume-Uni. On s'interroge toujours exactement sur pourquoi, comment, mais en gros, il venait essayer de négocier une paix séparée avec le Royaume-Uni. Et se retournait contre l'URSS qui l'attaquait. On n'a jamais très bien su, est-ce qu'il était vraiment missionné, est-ce que comme ça mal tourné, il a été désavoué par le Troisième Reich, peu importe. Et vous imaginez, d'ailleurs, Christophe Priest avait aussi utilisé cet épisode pour une uchronie, hein, vous savez, on imagine qu'est-ce qui se serait passé pour le Royaume-Uni, mais aussi pour l'Europe, si les choses avaient tourné autrement à cette époque. Et Walton, vous imaginez que cette mission a réussi, qu'un groupe des élites britanniques pactise avec le Troisième Reich, fait une paix séparée et met en place au Royaume-Uni une semi-dictature, de plus en plus dictature et de moins en moins semi, antisémite, raciste, anti-bolchevique et alliée, en tout cas en paix avec le Troisième Reich. Évidemment, l'Europe qui se met en place n'est pas la même. Et on en était là, parce que sinon on en dirait trop sur notre héros. Il y a un café littéraire qui m'en parlait. Qu'est-ce qui vous a amené, donc vous, autant galloise, autant britannique, John Walton, à vous intéresser à cet épisode et à imaginer, en gros, un pays comme le vôtre qui, quelque part, n'est pas tout à fait le régime de Vichy, puisqu'il est indépendant, mais pactise quand même avec le Reich, on est plutôt nous habitués à gérer cette vieille histoire difficile. En revanche, pourquoi les Britanniques qui n'ont jamais été envahis sont-ils travaillés par l'idée qu'ils auraient pu faire une paix séparée avec le Troisième Reich?
It's exactly for that reason. I think in Britain and Canada and the US, we have this belief of it can't happen here. It happened in other countries, but it can't happen here, which is completely incorrect as recent events have been bearing out.
Alors, effectivement, justement, c'est pour cette raison que je me suis intéressée à ces périodes de l'histoire, parce qu'en Grande-Bretagne, comme aux États-Unis, on a la fâcheuse tendance de croire que ça ne peut pas se produire chez nous. Ça s'est produit ailleurs, ok, mais ça ne peut pas se produire chez nous. Et c'est complètement faux, comme nous l'ont prouvé des événements assez récents.
So, I looked a lot at the Vichy regime when I was writing this. I looked a lot at Spain. And what happened with Franco in Spain. But I think I was also looking a lot at modern politics at the time when I was writing this and what Britain and the US were doing in the invasion of Iraq. There are no purely good, purely innocent, wonderful people. Anybody can do this. I was interested in the question of why good people do bad things. It's not monsters. We do bad things. And that's very much what that trilogy is about.
Alors, j'ai effectivement beaucoup étudié le régime de Vichy quand j'ai écrit cette trilogie, mais j'ai également étudié l'Espagne sous Franco. Mais je me suis également inspirée de la politique qui se passait à l'époque, par exemple la Grande-Bretagne et les États-Unis, qui ont envahi l'Irak. Et justement, je pense que même des personnes bien peuvent faire ce genre de choses. Et la vraie question, c'est de savoir pourquoi les gens bien vont mal agir. Parce que ce ne sont pas des monstres, ce sont des gens comme vous et moi. Et donc, qu'est-ce qui les pousse à agir comme ça?
I think when we look at history, we're very much inclined to think that it's the only way it could have gone. And when it's gone well, we're inclined to congratulate ourselves for things that we did not do, but that our ancestors did. And we feel smug and happy that it's over, that we succeeded. And really, very often there are things that could have gone either way.
quand ça s'est bien passé, on se dit bah, super, nos ancêtres ont bien joué. Mais bien souvent, ça aurait pu prendre deux voies très différentes. Et je pense qu'effectivement, après la chute de la France pendant la Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne n'aurait jamais pu s'en sortir seule. Et quelque part, ça aurait été logique qu'elle fasse cette paix avec le Troisième Reich. Et on a eu la chance que Churchill n'ait pas cette idée.
And I think this is also a question that I dealt with in my novel that's just come out in France, My Real Children, Mes Vrais Enfants, which is that people in history don't know what was going to happen in the future. It's very easy for us to look and think, oh yes, World War II, it's going to end on the date when it ends. But for the people who were there at the time, they didn't know it was going to end, when it was going to end, any more than we know what the events that we see around us now are leading to. And it's that contingency in history that I think is very interesting to play with Ukraine, just to do different things with, to show that everybody in their moment of history doesn't know what's coming, and we don't know which of our actions can make a difference to the future. We're building the future in everything we do, and we cannot tell which of those things are important.
Cette question, je l'aborde également dans le roman qui est paru le plus récemment en France, Mes Vrais Enfants, c'est que les gens à l'époque ne savaient pas quand la Seconde Guerre mondiale allait se terminer. Nous, bien sûr, maintenant, on regarde le passé, on se dit, bah oui, ça va se terminer à ce moment-là, mais il faut bien se rendre compte que les gens qui l'ont vécu ne savaient pas quand elle allait se terminer. Et justement, je pense que c'est ce principe-là qui est très intéressant dans les uchronies. On se dit qu'on ne sait pas comment le monde va tourner, et on ne peut pas savoir quelles sont nos actions qui auront une importance pour l'avenir, lesquelles vont changer l'avenir et lesquelles sont vraiment importantes.
Merci, Joe Elton. Christopher Priest, je disais que les auteurs britanniques avaient tendance à s'intéresser justement à l'Uchronie. Vous avez écrit vous aussi une uchronie sur le Troisième Reich avec le personnage de deux frères jumeaux. Pourquoi vous vous êtes intéressé vous aussi à l'Uchronie? Pourquoi cette période autour de la Seconde Guerre mondiale? Est-ce que finalement les auteurs britanniques n'ont pas envie de réinventer l'histoire parce que vous avez perdu l'Empire?
Before I answer the question, I'd just like to say how pleased I am to be here. This is my fourth year at EPNL Foreign National. I love coming here. For me, it's the European project that works. This is, for me, the heart of Europe, how Europe could be at its best. I say this knowing that my country has decided to leave. I'm embarrassed about that, and I apologize for bad feelings.
Avant de répondre, j'aimerais redire combien je suis heureux d'être ici. C'est la quatrième année que je viens aux Imaginales. J'aime énormément venir ici. Et pour moi, c'est vraiment la preuve d'un projet européen qui fonctionne. Le cœur de l'Europe est ici, c'est l'Europe dans ce qu'elle a de meilleur. Et je dis ça avec la connaissance que mon pays a décidé de quitter l'Europe. Et ça me fait honte et j'aimerais vous présenter mes excuses.
Stéphanie asked about my novel, La Séparation. It came out about 15 years ago. Unfortunately, I've forgotten quite a lot about it.
Donc, Stéphanie me pose une question sur mon roman La Séparation. Il a été publié il y a une quinzaine d'années. Pour être très honnête, j'ai pas mal oublié ce qui s'est passé.
But I'm going to echo what Joe just said. There is an interest in the war. Where we are now is a result of the war. United Europe, and that is for me a great historical event. It's something that's well worth discovering through literature how it was and how it might have been otherwise.
Mais je souscris beaucoup à ce que Joe a dit. L'intérêt que l'on peut avoir pour la guerre, en fait, c'est parce qu'elle nous a conduit là où nous sommes maintenant. L'endroit où nous sommes maintenant est un résultat de cette guerre. Elle a uni l'Europe et c'est extrêmement intéressant. Donc c'est un grand fait historique. Et c'est extrêmement intéressant de cela ont pu aussi façonner l'état du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui.
Merci, merci Christopher, et j'ajouterai que finalement, Christopher est toujours le bienvenu, comme tous nos amis britanniques, pour nous, le Royaume-Uni et ses habitants, en tout cas une bonne part d'entre eux, continuent à faire battre le cœur de l'Europe, en tout cas dans sa littérature d'imaginaire, et on les en remercie. Et si tous les Européens sont des gens aussi adorables et talentueux que Christopher Priest, l'Europe a encore un avenir, peut-être différent, mais un avenir. Eh bien, on a fait parler nos amis américains, britanniques, et on en vient maintenant aux pays invités. Et là, c'est la première fois qu'on a un pays invité, en tout cas, composante francophone, puisque la Suisse n'est pas un pays francophone, ce qui montre d'abord aux Français, qui parfois l'oublient, qu'on peut avoir un sentiment national et construire un pays, nation, sur autre chose qu'une langue unique. Puisque vous, vous avez quand même quatre, il me semble bien, trois essentiels et quatre, enfin, je vais dire ça, vous allez faire protester que toutes vos langues sont égales, j'imagine, d'une certaine façon. On a donc choisi la Suisse, même si ce sont surtout des auteurs suisses romans, parce que c'est la littérature la plus dynamique. Et moi, il y a une chose qui m'a frappé quand j'ai choisi la Suisse comme pays invité, c'est le fait que vous êtes surtout, il y a quelques auteurs de fantaisie et de bêtises, comme on dit, mais la majorité des auteurs suisses, ce ne sera pas le cas de Céline, justement, de lier Céline, on en parlera avec lui tout de suite, mais essentiellement, et là, je m'adresse à la fois aux novélistes, mais aussi à l'orchestre, à des animateurs du musée de la maison d'ailleurs, le grand musée européen de la science-fiction et de l'imaginaire, l'anthologiste que vous êtes, je vous recommande d'ailleurs, si vous voulez découvrir la qualité des auteurs suisses, les deux anthologies, une anthologie historique et une anthologie contemporaine coordonnée par notre ami Jean-François Thomas, qui a été aussi chroniqueur, qui travaille toujours à la revue Galaxy, partout des festivals, etc. J'arrête là. Mais vous connaissez bien, justement, vous avez été un des amateurs de cette science-fiction suisse. Comment vous pouvez nous expliquer, Jean-François Thomas, que la Suisse produise avant tout de la science-fiction, et pourquoi la Suisse romande aussi dans ce pays qu'est la Confédération helvétique, Jean-François?
Alors, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que les auteurs suisses romands, on va dire suisses romands tout d'abord, consacrent essentiellement leur récit à la science-fiction. Il y a très peu de fantaisie, effectivement. Il y a une jeune auteure qui s'appelle Melissa Polia, qui a écrit trois récits de fantaisie, mais à ma connaissance, c'est la seule qui se soit vraiment engagée dans cette voie. Sinon, les autres auteurs sont plutôt axés du côté science-fiction. Et je n'ai pas d'explication. Je ne sais pas pourquoi. Et les deux anthologies dont Stéphanie parlait, l'idée de la première, c'était de montrer que la science-fiction suisse existait. Parce que pendant longtemps, les littératures d'imaginaire ont souffert, ont été mises un peu à part dans un ghetto, comme on le sait. Et mon but, c'était de montrer qu'en Suisse, on montre aussi des auteurs écrivaient dans des littératures d'imaginaire. Et cette anthologie a connu pas mal de succès, cette anthologie historique. Et ensuite, c'est aux imaginaires, non, c'est aux utopiens, c'est le projet qu'on a. Développer l'idée de faire une seconde anthologie avec des auteurs contemporains pour vous montrer que c'était vivant depuis les années 2000 à peu près. Il y a effectivement toute une série de jeunes auteurs que je vais qualifier de trentenaires, j'ai déjà un certain âge, qui sont des gens qui sont dynamiques et qui ont fait justement cette évolution de la science-fiction suisse qui fait que nous avons le grand honneur d'être invités dans ce festival. Les gens, c'est beaucoup de. Festival des Imaginales de nous avoir invités, parce que ça nous fait vraiment très plaisir et ça montre une certaine reconnaissance du travail effectué. Pour répondre encore une petite chose sur la Suisse allemande, effectivement, je connais peu de choses de la Suisse allemande, mais j'ai eu récemment un contact avec un jeune universitaire, Soleroy, qui fait une thèse sur le cinéma. Sur la radio et les pièces de théâtre radiophonique, et aussi un peu de cinéma, de science-fiction en Suisse. Et lui-même était surpris de voir que le mouvement était très vivant en Suisse romande, mais qu'en Suisse allemande, il se passe.
rejoindrons dans l'après-midi, demain, on a donc une délégation avec un auteur de, une jeune femme, auteur de bande dessinée, Valpe. On aura aussi François Rouillet, qui vient de sortir un diptyque, qui a eu un prix important dans le domaine de la SF et qui est quand même là aussi un auteur et un écrivain important. On aura aussi Georges Panchard, qui a écrit un recueil de nouvelles, une vingtaine de nouvelles et un roman. C'est un roman qui parle de l'Europe, qui parle du monde commun, qui parle d'une crise éventuelle éclatant des États-Unis. Un roman un peu politique, vous verrez, passionnant, discuté, et un grand livre. On aura l'occasion d'en parler avec lui. Et puis le deuxième présente à cette tribune, représentant de l'imaginaire, je ne vais pas dire la science-fiction, l'imaginaire suisse. C'est Olivier Sillé, qui est un auteur que je vais qualifier d'hémétique, qui est un auteur dont les thématiques flirtent avec la littérature générale, avec le réalisme magique, la fantaisie, le fantastique, un peu moins la science-fiction, parfois. Bref, c'est un auteur qui n'est pas le droit sur la couture du pantalon littéraire, qui part dans différentes directions, mais pour qui l'imaginaire est vraiment au cœur de son œuvre. Est-ce que c'est aussi un courant, ou est-ce que vous êtes plutôt une individualité cette imaginaire suisse.
Bon, moi, j'imagine que j'ai un peu un accident de nature dès le départ. Je suis toujours en bordure de genre aussi dans mes goûts. Peut-être c'est parce que je suis tombé de la planche à manger quelques jours après ma naissance. Non, je pense que c'est un peu une particularité. Moi, je n'ai pas de plan de carrière, je n'ai pas de plan d'écriture, etc. J'ai écrit un premier roman qui s'appelle Job, qui a été publié à la Talent, puis en Folio SF. Ils ont décidé que c'était de la science-fiction, puisque ça se passe longtemps après une grande catastrophe à venir. Et donc j'ai fait de la science-fiction un tout petit peu, sans savoir. Et après j'ai continué avec, par exemple, beaucoup lu de romans sud-américains. Et donc je pense que j'ai été objectivement influencé par le réalisme magique, qui s'est introduit aussi dans certains romans qui sont en principe des romans historiques. J'ai écrit un roman qui se passe en 1492, qui est l'histoire de.
Sur la science-fiction, le futur, le space opéra, ou les dystopies aussi, parfois traitées. Vous le verrez dans l'anthologie du Festival Destination, il y a deux auteurs suisses transformés, et aussi notre ami Jean-François Thomas, vous verrez, on y parle d'extraterrestres, et aussi de télésurveillance, ou plutôt de drone surveillance, avec un humour un peu caustique. Pour conclure un petit peu sur cet éclairage suisse, est-ce que vous pensez que les auteurs suisses sont en gros des francophones comme les autres, ou est-ce qu'ils ont une particularité, ne serait-ce que quelque chose qu'on ne prête peut-être pas en Suisse, qui est le chant du chocolat et des bancs, qui est l'humour. Moi, j'ai été souvent frappé que l'humour peut être très noir, peut être caustique, peut être vraiment drôle, mais les deux nouvelles que vous m'avez envoyées, en tout cas les auteurs suisses ont eu le temps de faire des nouvelles pour cette anthologie, vos deux nouvelles sont humoristiques et caustiques. Est-ce que c'est peut-être une tonalité de la même façon que la première anthologie contemporaine suisse que j'avais lue à l'époque, qui avait attiré mon attention en 1982, ça ne me réjouit pas, eh bien, c'était l'Empire du Milieu, ce qui était quand même peut-être un peu une autodérision suisse. Est-ce qu'au-delà du sérieux suisse, il y a peut-être aussi un humour suisse?
Alors, oui, je pense certainement que l'humour est une des composantes de cette circonscription. D'ailleurs, l'Empire du Milieu, très bien simple, c'est le dessinateur qui a raté la couverture. Ça s'appelle l'Empire du Juste Milieu. Parce que, comme vous le savez, la Suisse n'est pas dans l'Europe, elle n'est pas sortie, elle est simplement rentrée. Quoique nous sommes juste au milieu quand même, donc il y avait une référence pour cette idée-là. Alors, effectivement, François Rouillet aime bien écrire des histoires humoristiques. Moi aussi, j'en ai fait quelques-unes. C'est une manière peut-être de prendre de la distance par rapport à. Moi, personnellement, j'aime bien l'humour. Je trouve que ça permet d'exercer un peu son esprit critique. Et puis, oui, je crois qu'il faut aussi dire l'humour.
Moi, je ne fais pas exprès. J'ai une chose dont je vais pas profiter pour mes excuses. Pour m'excuser, je pense que c'est très pas du fait que je ne vais pas dans l'Europe. Nous, on a voté pour le faire. Moi, j'ai chaque fois voté pour, mais je ne suis pas tout seul.
Merci. ce petit lancement qui vous permet de commencer à vous mettre dans le bain et aussi à découvrir nos invités, pays invités. Mais évidemment, il nous reste deux interventions quand même à solliciter. On terminera par notre illustrateur qui donnera peut-être une vision à nouveau. L'affiche illustre le festival, donne envie à voyager. Notre coup de cœur, Aurélie Wallenstein. Aurélie, d'abord, je signale qu'elle a des attaches dans la région, donc c'est pour ça que c'est une des rares invitées qui n'est pas hébergée par un hôtel de la ville, mais qui est hébergée dans, on va dire, la famille proche à Golbe. Vous voyez, on est vraiment dans la communauté de communes. L'agglomération, absolument, la raison de m'électrifier. L'agglomération, très important. Et Aurélie Wallenstein est donc un coup de cœur, c'est que chaque année maintenant, depuis une dizaine d'années, le festival, et j'en assume bien sûr, comme directrice artistique, la responsabilité, choisir un ou une auteur pour symboliser au-delà de son propre talent, symboliser un peu l'intérêt que la ville d'Épinal et son festival portent. Non pas la découverte, parce que c'est déjà plus une auteur qu'on découvre, elle en est assurément, mais disons une nouvelle et relativement jeune voix de la littérature imaginaire française. C'est une façon de dire, on s'intéresse au premier roman, on s'intéresse aux jeunes auteurs, on s'intéresse au développement de la carrière des écrivains. Alors donc, on a choisi cette année une jeune femme de 36 ans, si je ne me trompe pas, ou à peu près, en pleine maturité littéraire, dont on parle de plus en plus, publiée chez Magnat pour ses romans destinés aux collégiens, publiée chez Scrigno pour des romans plutôt destinés aux collégiens, aux lycéens et aux adultes aussi, comme La mort du temps qui vient de sortir. La fantaisie, La mort du temps, un roman qu'on pourrait qualifier de science-fictif. On y parle d'animaux, mais jamais avec Niagara. Bref, vous avez dit que Wallenstein est un peu des symboles, une des figures de la littérature d'imaginaire montante, fantaisie, mais aussi un peu SF. Aurélie, ça fait quoi quand on a commencé par être une festivalière il y a une dizaine d'années, puis être invité pour la première fois il y a quelques années parce qu'on a publié un roman qui a attiré notre attention, et puis cette année d'être le coup de cœur du festival.
Merci pour cette présentation. Oui, effectivement, je suis vraiment très émue d'incarner le coup de cœur cette année du Festival des Imaginales. Comme Stéphanie l'a souligné, j'ai un peu connu tous les angles d'approche du festival. J'ai commencé comme festivalière il y a plusieurs années. On passait du temps sur les pelouses avec les amis au soleil au bord de la Moselle, et dans les conférences, et face aux auteurs qui étaient au table des dédicaces. Après, quand j'ai publié un petit roman chez une maison d'édition, j'étais sur les stands qui sont sur les côtés de la tente. Et maintenant, j'ai la chance d'être vraiment au cœur de l'événement à la librairie centrale. Et aujourd'hui, d'avoir le coup de cœur du festival. Merci beaucoup. Je suis très honorée, vraiment très honorée. Et très émue d'avoir cette chance.
C'est une chance, en fait, c'est surtout le talent d'Aurélie, vous la découvrirez, et pour ceux qui ont une nouvelle génération, si vous avez des enfants ou des neveux, des nièces, vous verrez, il y a vraiment des bons romans à trouver, y compris vous aurez plaisir à les lire, vous verrez, vous lirez sur leur épaule, et après vous en parlerez du livre. On conclut bientôt par déjà notre ami illustrateur, qu'on a demandé pour la fin, peut-être parce qu'une image, bien sûr, ça ne remplace pas les livres. Ça les illustre parfois, mais cette image à la fois, elle reflète bien le thème, la destination, le voyage, et puis elle reflète aussi la dominante fantaisie du festival. Pareil, vous avez d'abord illustré les anthologies du festival, dont trois que j'ai faites, que j'ai le plaisir de faire il y a quelques années. Vous avez déjà exposé, vous faites une belle exposition à la Maison du Bailly qu'on pourra voir dès aujourd'hui, et puis on vous a donc choisi pour représenter. Hein. Votre illustration se promène partout dans les villes, elle se promène dans la région, elle est dans les journaux, elle passe à la télé, elle est aussi visible sur les crânes dans la rue de Nancy, vous voyez, on s'étend de plus en plus au niveau de la promo. Est-ce que c'est symbolisé pour un illustrateur, un peintre comme vous, symboliser un festival comme les Imaginales?
Qui laisse ça voyager, surtout donc le thème était pour moi
temps parce que c'est vraiment les thèmes que j'aime, ce sont les paysages, les voyages et la fantasy, enfin, le monde fantastique. Moi, je voulais apporter ma touche personnelle qui est mon attrait pour la peinture classique du 18e et du 19e. Donc, je me suis pas mal inspiré pour le sujet du port, du port de Lorrain. Et pour les éléments architecturaux, c'est s'inspirer des caprices de Canaletto, qui faisait déjà des peintures fantastiques quoi, à cette époque. Donc voilà, c'est cet univers-là qui m'intéresse. Hein. Donc je vous invite à aller voir l'original à la Galerie du Bailly, avec des recherches. Il y a d'autres œuvres qui sont exposées, couvertures de livres, donc, que j'ai présentées ici au festival. Des travaux intéressants que je fais avec une galerie en ce moment pour une grande exposition qui devrait avoir lieu l'année prochaine.
Je vous incite donc très très vivement, merci Julien, à aller voir l'exposition à la Maison du Bailly, à vous procurer évidemment l'anthologie d'estimation que j'ai eu le plaisir de faire et qui est superbement représentée par cette image qui est reprise. Et puis vous aurez un entretien dimanche à 14h avec Julien Delval. Souvent avec les écrivains, on le fait moins avec les illustrateurs. Vous verrez, il y a plein de choses à vous dire, mais je vous conseille donc de vous y rendre. On va donc là, ne serait-ce que parce que les prochains cafés dont on démarre, le début d'hiver va dire un dernier mot, parce qu'un festival, c'est évidemment le talent des écrivains, la passion des équipes, entre autres celles de la ville capitale, qui sont vraiment sur le pont 24h sur 24. Ce sont nos modérateurs, nos traducteurs, que je remercie, que je salue. Et puis, c'est aussi un travail qui se prépare toute l'année avec des gens qui nous soutiennent. Et ces gens, ce sont aussi ceux qui nous aident matériellement, financièrement. Un festival comme celui-là, c'est évidemment la ville d'Épinal qui le porte et le finance largement. C'est aussi le département de la région, mais c'est aussi plein de partenaires publics et privés. Et c'est important de leur rendre hommage, monsieur le député de Rameau, parce que
sans eux, effectivement, cette 16e édition des Imaginales désormais lancé, mais comme vient de le rappeler Stéphanie, je souhaitais le faire en conclusion de ce lancement des images.